Je dois dire que la série de prédications que nous vous avons apportées, le conseil et moi-même, sur les promesses, a été une sorte de changement de perspective dans ma propre vie. D'arriver à contempler, en fait, tout ce que Dieu, dans sa parole, nous promet pour notre vie, et qui traduit non seulement sa générosité et sa bonté, mais aussi le projet absolument extraordinaire qu'il a pour chacune de nos vies, mais qui traduit aussi à quel point il aime chacun d'entre nous, au point de vouloir déverser sur nous des choses qui sont absolument extraordinaires. Et c'est pour ça que moi je suis d'autant plus emballé avec cette série dans laquelle nous sommes maintenant, et où nous sommes posés la question en conseil en disant, mais s'il y a toutes ces promesses qui nous sont faites, comment est-ce qu'on peut les saisir? Comment est-ce qu'elles peuvent devenir des réalités dans notre vie? Comment est-ce qu'elles ne restent pas simplement des belles paroles sur les pages de notre Bible, mais qu'elles deviennent une réalité pour nous? Et en fait, nous sommes passés dans un sens de ce que Dieu veut pour nous, le quoi, à essayer de regarder aussi ce que le Seigneur nous donne sur le comment et comment saisir ces promesses, afin qu'elles ne restent pas simplement des promesses, mais qu'elles deviennent des réalités dans notre propre vie. Et donc, moi, je suis devenu très ambitieux, assoiffé et curieux de savoir ce que Dieu nous réserve, mais aussi comment est-ce qu'il veut qu'on les saisisse. Et que ce soit dans ma propre lecture de l'Écriture ou que ce soit dans nos discussions en conseil, constamment ce sujet revient en se disant comment est-ce que nous pouvons individuellement et en tant qu'Église continuer à faire de ces promesses une réalité pour nous jour après jour. Et puis au fur et à mesure que j'y réfléchissais et tout ça, je me suis dit mais zut, il y a une promesse dont on n'a pas parlé. Et je pensais avoir fait le tour. Je pensais qu'on avait vu à peu près ce qu'il y avait dans l'Écriture pour notre propre vie. Mais il y en a une qui était là et une qui depuis longtemps me chatouillait et était un petit peu comme du poil à gratter dans le dos. Et cette promesse, c'est une que vous connaissez certainement et qu'on trouve à plusieurs reprises dans les évangiles et surtout dans l'évangile de Jean. Et où Jésus il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Et voici la promesse, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est le genre de parole qui, au bout de quelques années dans la vie chrétienne, on n'a pas tout à fait toujours trouvé comment ça marche. Demandez-moi, et je le ferai. Et il m'est arrivé à plusieurs occasions avec mes collègues en conseil en disant, mais où est-ce qu'on en est là-dessus et comment est-ce que nous pouvons arriver à un stade où tous, en toute confiance, nous pouvons dire oui lorsque je prie, le Seigneur m'accorde ce que j'ai demandé. Et ce qu'il y a, c'est que ce thème se trouve plusieurs fois dans l'Écriture, plusieurs fois dans la bouche de Jésus. Il dira, demandez et je le ferai. Mais on le trouve aussi dans le livre d'Ésaïe, on le trouve aussi dans les psaumes. Et en fait, on trouve un petit peu cette idée que on véhicule souvent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on lit ces différents textes dans les évangiles, on n'a pas tout à fait l'impression que Jésus dit ça à la légère. C'est pas un moment où il se sent euphorique avec ses disciples et il dit, vous savez, demandez-moi, je vous donnerai tout. Parce qu'il, à plusieurs reprises, et surtout au chapitre 16 de l'évangile de Jean, il introduit ses paroles et ses promesses avec cette petite phrase que vous connaissez tous, ces quelques mots qu'on cite beaucoup, on ne sait pas toujours exactement ce qu'ils veulent dire, mais on sait très bien que c'est une phrase d'une solennité lorsque Jésus dit « en vérité, je vous le dis ». Et là, au chapitre 16, il dit en vérité, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. » Comme si Jésus faisait une pause dans son propre enseignement et il dit « Je vais vous dire quelque chose qui est absolument crucial et fondamental pour votre vie. Demandez et je vous donnerai. » Et pour moi, c'est une promesse lorsque Pierre, dimanche dernier, et d'autres dans les semaines à venir vont nous parler un petit peu encore une fois de conquérir ce pays et cette terre promise qui nous est promis et qui est une terre où coule le lait et le miel. Pour moi, ça, c'est le lait et le miel auquel j'aspire aussi. C'est que je puisse prier, apporter mes supplications, mes demandes à Dieu et d'avoir cette confiance que Dieu va répondre. Et punaise, qu'est-ce que c'est un beau pays qu'on contemple de loin. Mais les promesses de la terre promise dans l'Ancien Testament, c'était premièrement une chose qui était donnée aux Israélites pour les faire rêver de quelque chose de grand que Dieu leur réservait. Et c'est bien pour ça que Dieu à plusieurs reprises prend Abraham et puis il le fait monter sur une montagne, puis il dit « Regarde, regarde tout ce que tu vois, jusqu'où tu regardes, je vais te le donner. » Et Abraham, il a dû dire « Punaise, qu'est-ce que c'est grand, c'est beau !» Et je montrais encore la dernière fois que j'ai apporté un message sur le premier chapitre de Josué. Dieu dit à Josué « Toute la terre que tu vas fouler, je vais te le donner. » Et Josué lui a dû dire « Waouh ! Moi je suis le chef d'un peuple qui va fouler une terre et toute cette terre magnifique que j'ai déjà vue lorsque je l'ai espionnée va devenir le mien. » Donc c'est une promesse qui est donnée non pas pour décevoir, mais qui est donnée pour faire rêver. Mais lorsque Jésus donne la promesse, lui, dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, c'est une promesse qui est donnée aussi dans un autre contexte, qui est de dire, en vérité, je vous le dis, vous allez vous lamenter, dit Jésus, et le monde va se réjouir, parce que les jours qui arrivent ne sont pas très beaux. Mais demandez et vous recevrez. Et donc c'est une promesse qui nous est donnée aussi pour tenir ferme dans les moments difficiles dans lesquels nous vivons, pour tenir ferme dans ce monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas une promesse qui est donnée simplement à la légère en disant, tu sais, si je pouvais ou bientôt ou dans... Non, c'est une promesse qui est donnée pour que vous contempliez cette terre promise qui est donnée, mais c'est une promesse qui nous est donnée aussi pour tenir ferme lorsque les moments difficiles arrivent. Mais comme je l'ai dit, au regard de, en tout cas mon expérience et certainement de la vôtre, en tout cas celle où j'ai pu lire sous la plume d'autres auteurs, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais plus combien de prières j'ai adressées à Dieu et qui sont restées, à mon avis, sans réponse. Alors que faire ? Après quelques années, on peut se dire, bon, il doit bien y avoir une explication, mais je vais me résigner. Je ne comprends pas tout de Dieu. Il y a des paroles qui sont incompréhensibles dans sa parole. Mais je vais m'accommoder de la chose que un jour je saurai, et puis pour l'instant, je baisse les bras. Ou alors on peut se dire, quelque part quand même, et là peut-être on a été déçu, lorsqu'on a prié que des choses ne sont pas arrivées, et je ne prie pas simplement d'avoir une nouvelle voiture ou des choses comme ça, mais lorsqu'on a prié pour que des êtres chers soient guéris ou soi-même, on peut être cynique, amer. Et on peut peut-être se dire, c'est là une des promesses les plus absurdes que le Seigneur a pu faire envers ses enfants. Ou alors, et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est de se dire, c'est certainement une des promesses les plus formidables que nous avons dans l'Écriture et que nous serions les plus stupides des êtres humains si on ne passait pas un peu de temps pour comprendre comment ça marche. Et c'est la démarche de foi qu'il nous faut faire. C'est la démarche de foi qu'il nous faut faire lorsque nous regardons toutes ces promesses, c'est la démarche de foi lorsque Dieu nous dit « voici comment tu vas conquérir ce pays », c'est la démarche de foi que nous devons faire lorsque Dieu dit « je serai avec vous lorsque vous allez conquérir ce pays » et que Jésus fait un écho à ses paroles en disant « je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et que rien, rajoute l'apôtre Paul, ne pourra jamais nous séparer les uns des autres. Et c'est cette démarche de foi qu'il nous faut faire ce matin, parce que lorsqu'on regarde l'Écriture et lorsqu'on lit ce que Dieu fait lorsque les gens prient, on trouve des choses absolument extraordinaires. Et il suffit simplement de dire, lorsque l'on prie, il y a plein de textes qui nous disent que Dieu, il entend et il écoute. Dieu, il dit, vos prières, elles ne sont pas, elles ne vont pas au plafond, puis elles retombent. Je tends l'oreille et j'écoute. L'Écriture nous dit que lorsque nous prions, Dieu nous fortifie. Que dans la prière, il travaille notre être intérieur pour que nous soyons des êtres qui puissent tenir dans ces moments de difficulté, mais que nous puissions être des êtres qui grandissent dans ce projet que Dieu a pour nous. Il nous est dit dans l'Écriture que lorsque nous prions, Dieu bénit. Au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, il dit « Mais vous qui êtes des parents et qui savez donner des choses à vos enfants, etc. et tout, à plus forte raison, Dieu le ferait. Parce que Dieu est meilleur que nous sommes. » Et puis, dans l'épître de Jacques, la prière est efficace. Elle produit un effet. Donc loin de nous l'idée que la prière est simplement une sorte de méthode couée ou un petit moment où on fait de l'introspection et puis on fait un petit peu de méditation et puis on se sent bien. Mais la prière, d'après la façon dont elle nous est décrite dans l'Écriture, c'est quelque chose qui transforme. Et donc je reviens à mon observation. En lisant cette promesse de Jésus, on serait certainement les plus stupides de tous les êtres humains de ne pas nous arrêter un instant et de comprendre comment ça fonctionne. Mais nous savons tous que, en fait, Dieu, lorsqu'on prend quelque temps pour réfléchir à comment ça peut fonctionner, quelles sont les balises qu'il nous faut pour ça, nous savons tous que Dieu n'est pas le génie d'Aladin dans la lampe magique. J'espère que je ne vous déçois pas. Mais je ne pense pas que quelqu'un ici pense que Dieu était le genre « je frotte la lampe et puis un génie sort et puis le génie il dit bah, « dis-moi ce que tu veux et puis je te le donne ». Qui c'est qui pensait ça jusqu'à présent? D'accord. Moi, nous sommes d'accord là-dessus. Donc en fait, lorsque nous disons ça, c'est que nous disons très bien, c'est que Dieu en face, lui, il est un être avec qui on est en relation, il a des idées derrière la tête, il a des projets, il a une volonté, et puis il y a un certain nombre de choses qu'il peut faire, et puis un certain nombre de choses qu'il ne fait pas. Ça ne vous choque pas, non? Je veux dire, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu commette le péché et le mal. Je vois des petits... Mais nous savons tous qu'il y a un certain nombre de choses que Dieu ne peut pas faire. Ainsi donc, s'il fallait que nous croyions que cette promesse est tout simplement Dieu, je frotte la lampe, tu sors, je te demande un truc, tu le fais, on n'est pas tout à fait dans la bonne compréhension de ce verset. Mais ça veut dire donc que nous nous ouvrons à la possibilité que Dieu, lui, ait des idées et des projets et une volonté qui se manifestent aussi au moment où nous prions. Et donc, nous ne devons pas prier un petit peu comme le fils prodigue qui est allé voir son père en lui disant « Tu sais, maintenant j'aimerais bien que tu me donnes ma part de l'héritage parce que je suis ton fils, et puis ciao. » Et je m'en vais. Donc on ne va pas voir Dieu en disant « Toi, tu es le Créateur, tu es celui qui m'a sauvé, je suis co-héritier avec Jésus-Christ, donne-moi maintenant ma part d'héritage. » Et on s'en va avec. Non, la prière telle que la Bible nous l'enseigne a toujours lieu dans un contexte qui est balisé. Il y a des points de repère, il y a des balises, c'est marqué. Et si nous voulons prier et saisir cette promesse, il nous faut tenir compte de ces balises. Et il y a un certain nombre de balises que j'aimerais décrire ce matin, et qui sont toutes tirées, en fait, si vous relisez les chapitres 14, 15, 16 de l'évangile de Jean, vous trouverez à 3 reprises, même à 4 reprises, là où Jésus fait cette promesse à ses disciples, en disant « Demandez et je vous donnerai ». Donc il n'y a que 3 chapitres que vous avez à lire et vous découvrirez certainement l'essentiel autour de cela. La première chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que lorsque nous prions, c'est déjà la volonté de Dieu et du Seigneur et de Jésus de nous donner et d'être généreux envers nous. Ne serait-ce que simplement cette promesse qui nous est faite, « Demandez et vous recevrez ». Mais aussi marqué un tout petit peu par ce verset que je citais tout à l'heure de Matthieu 7, « Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Il est dans la nature même de Dieu d'être bon et généreux et de prendre soin de ses créatures et de ses enfants. Ainsi donc, ce n'est pas comme si nous entrions dans une sorte de discussion et de marchandage avec Dieu en lui disant « S'il te plaît, est-ce que tu veux bien me donner ?» Puis Dieu lui dit « Arrête de m'embêter, moi je suis là, je m'occupe de mes affaires et tout ça. » Non, Dieu est déjà disposé et prédisposé à vouloir donner. Avant même que nous ayons à cœur de demander, Dieu est dit « Je donne ». Et vous trouverez un verset dans le livre d'Ésaïe, je ne sais plus quel chapitre, je pourrais vous le retrouver, mais où il est dit qu'avant même qu'ils m'adressent leur prière, je répondrai. Avant même qu'ils m'adressent leur prière, je répondrai. Parce que Dieu est dans une mentalité et une disposition d'esprit où il veut répondre à nos prières. Et donc nous avons quelqu'un qui est tout ouï lorsque nous prions, qui a les oreilles grandes ouvertes pour nous écouter. Et nous ne sommes pas des personnes qui viennent le déranger constamment en disant « Seigneur, j'ai encore quelque chose à te demander, est-ce que tu veux bien ?» Non, le Seigneur, il dit « Viens, demande. » Prier, c'est donc puiser dans la générosité que Dieu, ou la générosité de Dieu. Ce n'est pas faire valoir un mérite ou négocier une transaction avec Dieu. C'est tout simplement venir et puiser dans ce qu'il a préparé pour nous. Une deuxième balise que nous avons aussi là dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 24, il nous est dit « Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Et là, on commence à avoir quelque chose où Dieu, lui, il a une perspective sur pourquoi il veut donner par rapport à peut-être pourquoi nous, on demande. Dieu, il va au-delà de ce qu'il va donner, mais dans le but que la joie du chrétien soit parfaite. Et donc ici, cette joie telle que nous la connaissons dans le Nouveau Testament et celle que Dieu veut nous donner, ce n'est pas tellement une joie d'avoir reçu quelque chose ou obtenu quelque chose. Mais c'est cette véritable joie dont il nous est parlé, qui est de connaître un Dieu qui est si bon, qui est si généreux et qui en retour est digne de notre louange et digne de toute gloire. Encore une fois, comme je le dis, ce n'est pas tellement de nous réjouir d'avoir obtenu quelque chose, mais c'est la joie de savoir que nous l'avons reçu de ce Dieu qui est tellement bon envers nous et que ça nous pousse de nouveau à le louer et à l'adorer. Et ainsi prier, c'est en fait laisser Dieu façonner notre être intérieur. Prier, c'est s'ouvrir à ce que Dieu, lui, travaille notre être intérieur afin qu'il soit dirigé vers ce véritable sens qui est en fait de connaître la véritable joie, la véritable paix, qui à bien des égards sont indépendants des circonstances parce qu'ils trouvent en fait leur raison d'être dans Dieu lui-même. Et ici, c'était un des premiers qualificatifs de cette promesse. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et non pas simplement afin d'obtenir ce que vous demandez. Une troisième balise qui nous est donnée, une troisième marque, c'est que Dieu et Jésus exaucent nos prières afin qu'ils soient glorifiés. et ça dérive un tout petit peu de ce que je disais précédemment. Mais au chapitre 14 et au verset 13, il nous est dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée. » C'est-à-dire que les regards, nos propres regards, mais peut-être les regards des autres aussi, se tournent vers Dieu et vers Jésus, et non vers simplement l'exaucement de notre prière. Et tout cela afin que nous soyons, encore une fois, plus proches de lui et que nous lui rendions ce qui lui est dû. Cette semaine, lors de l'étude biblique, nous avons parlé de ce Dieu jaloux, de ce Dieu qui ne supporte pas l'idée qu'on se fasse des images de lui. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que nos regards se tournent vers lui et sachent qui il est, lui. Parce que rien ne peut en fait bien le refléter ou convenablement. C'est un Dieu qui constamment cherche à ce que nos regards soient toujours sur lui, sur lui, sur lui. Parce qu'il n'y a rien de meilleur pour nous que d'être portés sur lui constamment. Et ici, c'est... pas tellement Dieu qui est un mégalo qui dit « Attendez, c'est quand même moi qui fais tout ça là-dedans, donc quand même, mettez les projecteurs sur moi, c'est moi qui suis glorifié. Hein? Quand même moi qui ai fait tout ça. » Mais Dieu le fait parce que c'est lorsque nos regards sont tournés vers lui et que nous lui rendons notre louange, que nous reconnaissons que ça vient de lui, que là nous comprenons véritablement d'où viennent toutes choses. Et c'est là le plus grand bien que nous pouvons avoir. C'est de le louer et de le glorifier et de lui rendre sa place dans nos vies, telle qu'il a l'intention qu'elle soit. Prier, ce n'est pas simplement recevoir, c'est immédiatement donner en retour dès qu'on a reçu. Et de rendre à Dieu la gloire et la louange pour ce qu'il a fait, et de reconnaître à quel point c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui conduit tous les événements, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui s'intéresse à tout ce que nous sommes. Nous qui sommes les plus petits parmi les 7 milliards aujourd'hui, et je ne sais pas combien de milliards qui ont existé sur cette terre. La quatrième balise, c'est que Dieu exauce nos prières dès lors que nous demeurons en Jésus, et que nous portions du fruit. Et là, au chapitre 15, vous pourrez relire ce texte où il est dit « Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et ici, donc, la prière n'est pas simplement quelque chose d'isolé que nous faisons à un petit moment le matin ou le soir ou dans notre chambre, mais c'est quelque chose qui englobe en fait tout notre être et tout notre comportement, qui est non seulement parole, mais qui est aussi action. Et c'est là où Jésus il dit, mais je vous donnerai, mais portez du fruit, demeurez en moi. Et c'est là où peut-être, puisque nous savons tous que nous ne demeurons pas à 100% dans le Seigneur, que nous ne portons pas toujours du fruit, c'est ici où peut-être il y a tout ce projet de vie, où nous verrons cette promesse se réaliser de plus en plus dans notre vie au fur et à mesure que nous apprendrons à demeurer, à rester dans le Seigneur et ne pas être attirés à l'extérieur ou être bousculés. Et au fur et à mesure que nous nous ouvrirons pour porter le fruit que le Seigneur veut que nous portions, dans la transformation de notre personne, mais aussi dans le témoignage que nous apportons au monde autour de nous, c'est là où de plus en plus nous verrons alors cette parole et cette promesse se réaliser dans notre propre vie. Et ainsi donc, la quatrième balise, prier, ce n'est pas tellement parler, mais c'est aussi vivre et rayonner de la présence de Dieu. Et tout ça, me semble-t-il, est récapitulé dans une petite phrase que nous utilisons beaucoup aussi, mais dont Jésus parle aussi. Il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. » Alors nous, en bons protestants, en bons évangéliques, une prière n'est pas vraiment une prière si on la finit pas avec le « Amen » et surtout si ce « Amen » n'est pas précédé dans ton bon nom, Seigneur Jésus. « Amen ». Et nous avons tous pris l'habitude peut-être de ajouter cette petite phrase à la fin. Comme si c'était la formule qu'il fallait utiliser à un moment ou à un autre, comme si à un moment il fallait dire « C'est dans ton nom que je prie, donc Il faut que ça se passe. Mais là, nous nous sommes arrêtés à la formule, nous sommes arrêtés à cette phrase. Et dans nos églises, nous avons pris l'habitude de l'ajouter à nos prières. Mais combien de fois est-ce que peut-être elle s'arrête simplement à ça sans vraiment comprendre ce que signifie prier dans le nom de Jésus ? Ou même si nous le comprenons, combien de fois est-ce que nous sommes conscients que c'est dans le nom de Jésus que nous prions ? Et prier dans le nom de Jésus, encore une fois, croyez-moi bien, ce n'est pas simplement l'ajouter à la fin de votre prière. Puisqu'à la fin du Notre Père, elle n'y est pas alors. Si Jésus ne l'a pas utilisé. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, en fait, de prier dans le nom de Jésus ? Déjà, je pense que prier dans le nom de Jésus, c'est un petit peu tous ces éléments-là que je vous ai décrits et qui font partie et qui entourent un petit peu cette promesse constamment dans l'évangile de Jean. Mais prier dans le nom de Jésus, en fait, c'est tout simplement, encore une fois, diriger ses regards 100%, 150%, 200% sur l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, tout ce que nous sommes aujourd'hui ne peut pas avoir de sens et n'a pas d'avenir si nous ne pouvons pas le fonder et l'enraciner sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et croyez-moi, quand je dis ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est beaucoup plus que simplement mourir sur une croix, ok ? C'est Jésus qui est devenu un homme comme nous, qui a vécu la même condition que nous. C'est Jésus qui a révélé qui était le Père. C'est-à-dire que, nous dit l'Épître aux Hébreux, que c'est en regardant à lui, en voyant comment il a vécu, l'exemple qu'il nous a donné, ce qu'il nous a enseigné, c'est là la plus belle des révélations que nous pouvons avoir et la plus complète des révélations que nous pouvons avoir de qui Dieu est et de ce qu'il veut pour notre propre vie. Prier dans le nom de Jésus, c'est aussi penser à sa résurrection et sa victoire sur la mort, mais aussi son obéissance et sa fidélité et l'amour qu'il a dû avoir envers nous pour aller jusqu'au stade de mourir, confiant que Dieu allait le ressusciter après. Prier au nom de Jésus, c'est aussi être conscient de son ascension et de son statut aujourd'hui, qu'il est assis à droite du Père et qu'il intercède en notre faveur et qu'il est en train de se soumettre toutes les autorités dans ce monde. Prier dans le nom de Jésus, c'est avoir confiance qu'un jour il reviendra et nous restaurera et nous ramènera dans la présence du Père avec lui. Ainsi donc, prier au nom de Jésus, c'est constamment dire « Oui, ce n'est pas en fonction de ma capacité de bien prier ou de négocier avec le Seigneur ou d'établir une bonne raison pour laquelle le Seigneur doit me donner quelque chose, mais en fait, je peux prier librement et avec confiance parce que le Seigneur a restauré ma relation avec lui et le Seigneur m'a introduit dans cette position absolument formidable où aujourd'hui je suis fils adopté du Seigneur. Ainsi donc, Jésus est notre médiateur non seulement pour notre salut, mais il est aussi notre médiateur pour toutes les demandes que nous pouvons adresser à Dieu le Père. Et c'est là où j'aimerais vous renvoyer en fait à cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, quand ses disciples disent « mais nous ne savons pas comment prier ». Quelle belle confession de leur part déjà, nous ne savons pas comment prier. Et lorsque Jésus leur apprend à prier, il commence « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Nous avons déjà trois pétitions ou trois demandes qui sont faites avant même qu'on arrive à dire « Seigneur, et pour moi, j'aimerais bien que tu fasses ceci. » Mais ce n'est pas trois filtres, ce n'est pas trois barrières, ce n'est pas trois obstacles qui sont donnés avant, ce n'est pas trois conditions, ce n'est pas trois... C'est tout simplement que prier d'abord en glorifiant le nom du Seigneur, en priant que son règne progresse dans ce monde et dans notre vie et que sa volonté soit faite, c'est là où nous nous mettons carrément dans la même direction, dans la même optique que le Seigneur, pour ensuite prier tout ce que nous voulons, pour nous-mêmes. Et c'est là prier dans le nom du Seigneur. Et je ne sais pas combien d'entre vous reprenez ce texte du Notre Père, ou combien d'entre vous avez peut-être utilisé ce format pour votre propre prière. Mais moi, j'ai été interpellé dernièrement par un auteur qui lui suggérait un petit peu tiens John, voilà comment tu devrais peut-être prier, mais en reprenant un petit peu cet ordre logique du Notre Père, ben, je vais vous dire, lorsque je passe un tout petit peu de temps à glorifier le Seigneur et à prier que son règne vienne et que sa volonté soit faite, je suis dans un tout autre état d'esprit pour lui demander quoi que ce soit. Non pas que je n'en ai pas le courage, mais c'est que si je viens de prier que sa volonté soit faite et que son règne progresse dans ma vie, comment est-ce que je peux prier quelque chose qui serait tout à fait incompatible avec cette prière? Et bien des fois, je me suis rendu compte que ce n'est pas simplement une façon de limiter ou de me limiter ou de m'empêcher de prier ce que je veux, etc. et tout, mais au contraire, ça donne une autre tournure à ce que je demande au Seigneur. Et ça m'ouvre d'autres perspectives sur ce que je devrais peut-être rechercher et ce pourquoi je devrais prier. Ainsi donc, mes chers amis, la prière est aussi quelque chose qui s'apprend. Hein, on dit souvent, prier c'est simple, il suffit de parler à Dieu. Dis les paroles que tu veux, oui, d'accord. Ça, c'est vrai ça dans la mesure où nous n'avons besoin de passer par personne et il n'y a pas de formule magique pour prier. Mais il n'empêche que pour prier, oui, le Seigneur nous dit, oui, il y a des choses qui s'apprennent. Il y a des choses qui s'apprennent. Et en reprenant le Notre Père, on se rend compte que prier, c'est surtout et avant tout chercher la volonté du Seigneur et désirer que son règne progresse et qu'il soit glorifié. Tout le reste est parfaitement légitime dedans et le Seigneur l'a inclus là-dedans. Que le Seigneur nous donne notre pain quotidien, qu'il nous aide à pardonner aux autres, etc. et tout, et sans problème, c'est là-dedans. Mais la logique, bon, c'est même pas la logique, il y a aussi des éléments là-dedans que moi j'oubliais souvent, qui est que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Je les récitais lorsqu'on récitait le Notre Père, mais est-ce que c'est une façon qui marque ma prière? Ben non, pas toujours. Ainsi donc, chers amis, prier, c'est surtout désirer et demander que la volonté de Dieu soit faite. Et ainsi donc, on peut facilement imaginer dans ce cadre-là que pourquoi est-ce que le Seigneur retiendrait quoi que ce soit? Puisqu'en fait, nous nous alignons et nous désirons ce que lui veut. Et lui, en retour, nous dit « ta joie sera parfaite ». Ta joie sera parfaite. Ainsi donc, mes chers amis, non seulement est-ce que nous sommes appelés à apprendre à prier, mais moi je vous encouragerais, prier, prier. Et je le dis d'autant plus parce que moi, dans ma propre vie, s'il fallait que je prenne un chrono et que je calcule un petit peu combien de temps je passe dans la prière, je fais peut-être plus de vélo. Et je ne suis pas un grand cycliste. Mais lorsque vous priez aussi, apprenez, me semble-t-il, à prier en vous alignant sur la volonté de Dieu. C'est risqué, moi je sais que ça, c'est difficile lorsque je veux quelque chose ardemment, de dire, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Imaginez un petit peu Jésus dans le jardin de Gethsémané, là où il savait qu'il allait être arrêté, il savait ce qu'il allait souffrir et tout, et il dit... Si cette coupe pouvait s'éloigner, puis hop, il se rattrape et il dit « Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » C'est une lutte. C'est une lutte. Mais pourtant, c'est avec cela que Jésus a obtenu en fait la joie de notre salut. C'est avec ça qu'il a gagné. C'était en s'alignant non pas sur sa propre volonté qui était peut-être une volonté détournée ou de faiblesse ou humaine ou charnelle, quel que soit le terme que vous voulez, mais en nous alignant sur la volonté de Dieu, c'est là où nous sommes certains d'obtenir ce qu'il y a de meilleur pour nous-mêmes et qui va bien au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Parce que Dieu est un Dieu bon et parce que le projet que Dieu a pour notre vie va bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et c'est là où, en reprenant un petit peu cette ouverture de cette phrase, « Demandez ce que vous voulez, je vous le donnerai », ou ce que Dieu disait à Josué, « Partout où tu vas fouler ce territoire, je vais te le donner », ou « Abraham, regarde, et aussi loin que tu peux voir, myope ou pas myope, mais je te donnerai ». Il n'y a pas un aspect de notre vie, mes chers amis, qui ne peut pas être l'objet de notre prière. Et c'est là où je vous invite aussi à prier pour tous les aspects de votre propre vie. Parce qu'il n'y a pas que quelques petites choses qui intéressent le Seigneur, mais il y a tout qui intéresse le Seigneur. Et même lorsque ces choses-là sont marquées par nos insuffisances et notre péché. Dieu est plus grand que notre péché. Il est venu pour s'occuper de notre péché. Il n'y a pas de raison que nous ne prions pas à propos de notre péché, de nos insuffisances. Parce que Dieu n'est pas là pour nous taper sur les doigts, mais il est là pour nous aider à être vainqueurs sur le péché. Persévérons dans notre prière. Persévérons dans notre prière, même si Dieu n'a pas encore répondu, parce que là aussi nous nous ouvrons au fait que Dieu est tellement souverain que même les temps et les années sont entre ses mains. Et que ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu dans la dernière année qu'il ne répondra pas dans 10 ans. Le temps ne joue pas contre vous. Toujours été amusé par cette parole de Pierre. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Non. Hein, c'est de la poésie, quoi. Je veux dire, c'est jusqu'au moment où on commence à y réfléchir et on se rend compte à quel point Dieu travaille dans le temps. Et il n'oublie pas. Et le temps est quelque chose qu'il peut utiliser pour répondre. Donc ne baissez pas les bras, persévérez, à moins que le Seigneur vous ait déjà répondu là-dedans. Et peut-être un point qui est extrêmement important, me semble-t-il, aussi dans nos églises, c'est de nous encourager à avoir foi en Dieu lui-même et non pas en notre propre foi. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui veut. Mais combien de fois est-ce que nous disons, si tu as la foi, ou prie plus fort, aie plus de foi, ça marchera. Et nous finissons par avoir foi dans notre propre foi, plutôt que d'avoir foi dans le Dieu qui est souverain et le Dieu qui donne. Ainsi donc, mes chers amis, je ne vous demande pas de prier en ayant une émotion encore plus forte, en ayant une conviction encore plus profonde, en ayant encore une foi qui est plus convaincue que tout. Non. Prions le Dieu qui, lui, est celui qui veut être généreux. Prions le Dieu qui, lui, a une volonté et qui nous demande de nous aligner sur la sienne. Prions le Dieu qui, lui, est souverain et qui peut changer les événements. Nous ne prions pas parce que nous sommes des gens de foi. Nous prions parce que nous avons un Dieu qui est disposé à nous répondre et un Dieu qui peut le faire. Prier, c'est demander que la volonté de Dieu se fasse en se laissant guider par qui il est et parce que nous savons de sa volonté et de ses promesses envers nous. Ainsi donc, je vous recommanderais encore une fois de lire l'Écriture en voyant tout ce que Dieu prépare pour vous, tout ce que Dieu souhaite que vous soyez ou vous donnez. Et puis ensuite de suivre cette série sur la conquête de la terre promise, mais aussi dans la prière, d'aller saisir ces promesses, parce qu'elles sont les vôtres, parce qu'elles sont les nôtres. Et c'est notre prière que cela devienne une réalité dans notre Église, et que non seulement nous arriverons un jour où nous pourrons dire nous avons saisi toutes les promesses, mais que constamment nous soyons tous en train de progresser dans cette terre promise que le Seigneur nous réserve. Je vous invite à quelques instants de prière personnelle et puis je prierai moi-même après. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire oui qu'il est parfois difficile de lire ta parole et de la croire. Parce que tu annonces des choses tellement grandes, tellement extraordinaires et que nous n'avons pas toujours l'habitude ou les moyens de le voir. Mais Seigneur, ce matin, tu nous enseignes aussi que parfois nous prenons des raccourcis, que parfois nous n'ouvrons pas les yeux pour tout voir, et que toi, Seigneur, tu as placé ces paroles dans des contextes. Et que tu nous rappelles, Seigneur, que la prière n'est pas simplement cette transaction, ce marchandage entre toi et nous. Mais que par la prière, Seigneur, nous nous rapprochons de toi. Que dans la prière, Seigneur, tu nous aides à comprendre quelle est ta volonté et à désirer cette volonté. Que dans la prière, Seigneur, tu nous demandes aussi de vivre en accord avec ce que nous professons. Et que dans la prière, Seigneur, tu nous demandes de tourner nos regards vers toi et non pas vers notre propre foi. Seigneur, notre Dieu, je te demande que ta parole ce matin reste dans notre cœur. Qu'elle soit là, Seigneur, pour nous parler. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse dorénavant prier différemment. Ou persévérer, Seigneur, dans cette attitude que tu veux de notre part, parce que c'est la meilleure chose. C'est que nous prions que ton nom soit glorifié. Non seulement lorsque nous chantons, mais que tu sois glorifié dans nos vies. Que tu sois glorifié, Seigneur, dans le retournement des situations. Que tu sois glorifié, Seigneur, dans la progression de ta parole dans le monde et de ton évangile. Que nous puissions, Seigneur, continuer et apprendre à prier que ton règne vienne. Qu'en cela, Seigneur, nous puissions apprendre à nous délester de tout ce qui règne sur nous, afin que ce soit toi qui règne en nous. Et Seigneur, nous voulons aussi abandonner notre propre volonté pour prier que ta volonté soit faite. Nous voulons aussi désirer les mêmes choses que toi. Alors Seigneur, que par ta parole, par l'enseignement, par les échanges que nous pouvons avoir les uns avec les autres, que par l'œuvre de ton esprit en nous, tu puisses nous aider à comprendre cette volonté et à la désirer. Et Seigneur, nous nous réjouissons de cette parole aussi du psalmiste que beaucoup d'entre nous connaissent, mais qui récapitule tout cela tellement bien, qui est de faire de l'Éternel nos délices. Et il nous donnera ce que notre cœur désire. Seigneur, ce matin, nous saisissons cette promesse et nous te bénissons pour elle. Et merci pour ta parole qui est vivante et pertinente aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen.
Bonjour. Je partage avec vous les annonces du programme de la semaine. Demain soir, répétition de la chorale, ici au CEP, donc avec la chorale de Saint-Genis. Mardi soir, on reçoit le théâtre de la Marelle, qui va se produire à Echenevé, donc à 20h15, 8h15, il y a les flyers au fond de la salle, les petits panneaux, c'est sur le thème de Paul Lydie et les autres, et moi je vous invite vraiment d'y participer. Mercredi, on a le conseil, samedi, le groupe de jeunes, dimanche prochain, il y a le thé café le matin, c'est important de profiter de ces moments pour partager, pour vivre des moments forts aussi entre nous. Et puis ensuite, le culte à 10h30. Et c'est Jacques Yosti qui nous apportera le message. On aime bien ces moments de thé-café. Il y a besoin d'un renfort pour les thé-cafés des cinquièmes dimanches. Donc environ une fois tous les 3 mois. Il y a déjà une personne qui s'est proposée. Mais c'est bien d'être 2 quand même pour assurer ça. Donc si vous vous sentez concerné, si vous appréciez ces moments, c'est donc que vous êtes concerné. Alors réfléchissez peut-être aussi à votre engagement par rapport à cela. Femme Club lundi. Merci. Donc, chère Rebecca, je vous avais parlé du parcours baptême. Donc, il y aura une série de 3 jeudis soirs, donc les 6, 13 et 20 novembre. On appelle cela le parcours baptême. C'est un petit peu une préparation, une réflexion ou un partage sur le baptême. Ce n'est pas un engagement à se faire baptiser. C'est important que ce soit clair. Si vous vous posez des questions, si vous n'êtes pas au clair avec ce que ça représente, alors j'ai envie de dire c'est pour vous. C'est pas un engagement, mais c'est important de le souligner parce que c'est malgré tout toute une réflexion et un petit enseignement pour être bien au clair par rapport à ce que ça représente et par rapport à ce que ça représente aussi dans le développement de notre vie spirituelle à chacun. Des nouvelles des uns et des autres. Chez Jean-Paul et Lydie, il y a eu fin septembre un début d'incendie assez bien marqué quand même. Donc c'est vrai qu'on pense à vous, c'est pas forcément évident. La maison a été protégée quand même, mais actuellement ils sont toujours chez Philippe et Nelly, c'est juste, hein. Il y a des travaux qui se mettent en place, enfin, c'est important d'y penser parce que c'est quand même pas rien. Des nouvelles de Guylaine. Guylaine a été opérée lundi passé, encore une opération, prions pour elle, pour Jacques aussi. Mardi, elle rentre à l'hôpital aussi pour des examens, donc c'est important de la soutenir. C'est vrai qu'on a presque pris l'habitude que Guylaine se fait opérer, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et vraiment, prenons le temps de la remettre à notre Dieu. En fin de semaine, Rémi a eu une petite opération, l'appendicite. C'est bête comme truc, mais ben voilà, c'est quand même une petite opération. Mathieu et Anne-Laure ont été le chercher tout à l'heure, donc il sort ce matin. Tout s'est bien passé. Heureusement que c'est arrivé maintenant, j'ai envie de dire, puisque la semaine prochaine est prévoyée de partir 2 semaines au Kenya. Donc voilà. On peut aussi la remercier, notre Dieu. Pensons aussi à Audrey. Audrey qui se fait opérer mardi. Donc pour cette opération tant attendue, tant souhaitée, opération qui est quand même importante, qui est quand même assez lourde au niveau de son pied. Prions aussi pour que cette opération puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Rebecca me disait que ce n'est pas forcément évident. Le chirurgien va encore la revoir avant l'opération. C'est vraiment important de prier pour cela, de prier aussi qu'elle soit gardée, que l'équipe chirurgicale soit conduite et que vraiment la volonté de Dieu se manifeste aussi, puis qu'elle se manifeste vraiment pour sa gloire. Voilà, sinon je vous invite à vous lever, je vous partage encore 2 versets. Dans 1 Thessaloniciens 5, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce dernier verset, moi qui m'encourage beaucoup, celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.